Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu.
Allez-y, pourquoi pas l'acclamer. Nous allons faire 4 lectures. Les 2 premières, elles sont moyennement longues. Elle est très longue. La seconde, elle est légèrement longue. Et puis les deux dernières plutôt sont de petits versets. Nous lisons d'abord notre 4e, Daniel chapitre 4. Nous lisons du 10e au 17e verset. Et puis du 20e au 33e verset. J'aurais voulu sélectionner, mais finalement j'ai trouvé que presque partout, information importante, qu'il était nécessaire pour nous d'avoir déjà au début. Donc je disais Daniel 4, 10 à 17, et puis 20 à 33. Je me réfère à la lecture. Voici les visions de mon esprit. C'est le roi Nebuchadnezzar qui parle. Pendant que j'étais sur ma couche, je regardais, voici, il y avait au milieu de la terre un arbre d'une grande hauteur. Cet arbre était devenu grand et fort. Sa cime s'élevait jusqu'aux cieux, et on les voyait des extrémités de toute la terre. Son feuillage était beau, et ses fruits abondants. Il portait de la nourriture pour tous, les bêtes des champs s'abritaient sous son ombre, les oiseaux du ciel faisaient leur demeure parmi ses branches, et tout être vivant tirait de lui sa nourriture. Et donc, je regardais, voici un de ceux qui veillent, on dit, il cria avec force, et parla ainsi. D'autres versions disent, il cria avec autorité. Abattez l'arbre et coupez ses branches, secouez les feuillages et dispersez les fruits, que les bêtes fouillent et les oiseaux. Mais laissez en terre les troncs où se trouvent les racines, les chaînes de fer et des reins, parmi l'herbe des champs, qu'ils soient trempés de la rosée du ciel et qu'il ait comme les bêtes l'herbe de la terre pour partage. Son cœur d'homme lui sera donné. Et 7 temps passeront sur lui. Cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre des saints, c'est-à-dire irrévocable, afin que les êtres vivants sachent que le Dieu très haut domine sur les reins des hommes, qu'il les donne à qui il lui plaît, et qu'il y élève les plus vils des hommes. Amen. Et la fourchette allant du verset 20 au verset 33, là c'est l'explication que Daniel donne à ses monarques. L'arbre que tu as vu, qui était devenu grand et fort, dont la cime s'élevait jusqu'aux cieux et qu'on voyait de tous les points de la terre, cet arbre dont le feuillage était beau et les fruits abondants qui portaient de la nourriture pour tous, sous lesquels s'abritaient les bêtes des champs et parmi les branches duquel les oiseaux du ciel faisaient leur demeure, c'est toi, ô roi, qui es devenu grand et fort, dont la grandeur s'est accrue et s'est élevée jusqu'aux cieux et dont la domination s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Les rois ont vu l'un de ceux qui veillent et qui sont saints descendre des cieux et dire « Abattez l'arbre et détruisez-les. » Mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines, liez-les avec des chaînes et les chaînes de fer et des reins parmi l'herbe des champs, qu'il soit trempé de la rosée du ciel et que son partage soit avec les bêtes des champs jusqu'à ce que 7 temps soient passés sur lui. Voici l'explication au roi. Voici les décrets, j'aime quand Dieu signe, les décrets du Très-Haut qui ne peut être révoqué, qui s'accomplira sur mon Seigneur le Roi. On te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, et l'on te donnera comme aux bœufs de l'herbe à manger, tu seras trempé de la rosée du ciel, et 7 temps passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur les reins des hommes, et qu'il les donne à qui il lui plaît. L'ordre de laisser les troncs où se trouvent les racines de l'arbre signifie que ton royaume te restera quand tu reconnaîtras que celui qui domine est dans les cieux. C'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire. Mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice et à tes iniquités en usant de compassion envers les malheureux et ton bonheur pourra se prolonger. Si le peuple de Dieu est d'accord, qu'il dise Amen.
Amen.
Nous allons lire aussi Ésaïe chapitre 22. Ésaïe chapitre 22, et nous lirons du 15e au 22e verset. Ésaïe chapitre 22, du verset 15 au verset 22. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel des armées. Va vers ses courtisans, vers Shebna, gouverneur du palais. Qui a-t-il à toi ici et qui as-tu ici que tu creuses ici un sépulcre? Il se creuse un sépulcre sur la hauteur. Il s'étaille une demeure dans les rocs. Voici l'Éternel te lancera d'un jet vigoureux. Il t'enveloppera comme une pelote. Il te fera rouler comme une balle sur une terre spacieuse. Là tu mourras. Là seront tes chars magnifiques, ô toi l'opprobre de la maison de ton père. Je te chasserai de ton poste. Dieu se présente comme l'acteur. Il dit pas tu seras chassé. Il dit je te chasserai de ton poste. L'Éternel t'arrachera de ta place. En ces jours-là, j'appellerai mon serviteur Eliakim, fils d'Ilkija. Je le revêtirai de ta tunique. C'est à toi, mais c'est moi qui le donne à quelqu'un d'autre. Je le ceindrai de ta ceinture. C'est à toi, mais je décide de la donner à quelqu'un d'autre. Je remettrai ton pouvoir entre ses mains. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. Je mettrai sous son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Lisons aussi Josué chapitre 3, le seul verset 7e. Josué chapitre 3, le seul verset 7. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Et nous lisons aussi Josué chapitre 4, le verset 14e, qui est l'accomplissement de cette parole que Dieu adresse à Josué. En ce jour-là, un jour programmé par Dieu, l'Éternel éleva Josué aux yeux de tout Israël. Ils les craignirent comme ils avaient craint Moïse tous les jours de sa vie. Amen. Ce matin, Dieu m'a mis à cœur de parler sur le thème « Le Dieu qui abaisse et le Dieu qui élève ». Le Dieu qui abaisse et le Dieu qui élève. J'ai la ferme conviction qu'en maintenant du haut de cette chair, j'ai double casquette ce matin. Je me tiens à la fois comme un enseignant, parce que je vais essayer par la grâce de Dieu de mettre à notre disposition des connaissances, donner de manière systématique, donner de manière ordonnée. Et sur ce plan, je pense, je vais opérer comme enseignant, mais je pense aussi ce matin parler comme un prophète. Car ces choses que je vais dire, Dieu me dit de les dire parce qu'il va les faire. Il va les faire dans la vie de plusieurs. Ces choses à la fois négatives, mais ces choses aussi positives. Pourquoi je dis négatives et positives? Parce qu'un prophète n'est pas seulement appelé à dire de bonnes choses. Il n'est pas seulement venir appeler à caresser, à nous dire des choses qu'on aurait voulu entendre. Le Dieu qui abaisse et le Dieu qui élève. J'aimerais déjà d'entrée dire, quand je parle du Dieu qui abaisse et du Dieu qui élève, ce n'est pas deux personnes. C'est le même Dieu, mais qui sait faire le deux. C'est la même personne qui sait accomplir ces deux choses. Il sait élever, mais il sait aussi abaisser. L'une des choses, l'élévation, il aime les faire. Il aime planifier cela. Il aime programmer cela. Il aime même mettre tous les ingrédients afin que quand il pense faire cette chose pour quelqu'un, lui-même met en place tous les moyens humains, les moyens naturels, les moyens logistiques pour que ces choses arrivent. Si vous êtes d'accord avec moi, dites Amen. Et quand il programme cela, il est fait pour deux buts. Il est fait pour votre joie, pour votre édification, mais il fait aussi pour son bonheur. Il trouve la joie de voir ses enfants partir d'en bas et occuper les sommets. Il aime cela. Si le peuple de Dieu est d'accord avec moi, qu'il dise Amen. Mais la seconde chose, l'abaissement, c'est aussi lui qui planifie cela. Et par rapport à l'abaissement, souvent il n'aime pas faire cela. Quand il est fait parce qu'il est obligé. Quand il est fait, c'est parce qu'il estime qu'il n'y a pas d'autre moyen pour faire pédagogie vis-à-vis de telle personne. Le seul moyen, c'est de l'amener vers le bas. Je prie que quelqu'un évite que Dieu l'amène vers l'abaissement. Je prie que tu vives de telle manière que Dieu ne soit pas obligé de dire ce qui me reste, c'est de l'amener jusque-là. Souvent quand les hommes et les circonstances obligent les créateurs, ils se servent de l'abaissement comme pédagogie pour enseigner les hommes en général. Et là, ils touchent la personne qui l'abaisse, mais ils touchent aussi d'autres personnes. De la même manière, ils programment l'élévation, ils les planifient. De la même manière aussi, ils peuvent programmer, planifier et même organiser votre abaissement. Il sera lui-même un metteur en scène. Il saura programmer l'abaissement en plaçant les ingrédients comme une femme qui prépare la quantité de céleri qu'il faut. Mungwe le kate, ma foute le kate, ma tungulu comme il se doit. Parce qu'il veut atteindre un but, un but, un but, un but en laissant que nous soyons abaissés. Pourquoi Dieu laisse quelquefois que l'abaissement arrive? Qu'est-ce qui fait que quelquefois il s'est dit, je ne peux rien faire? Il faut simplement ceci. C'est quand les hommes ne veulent pas écouter. Et l'élévation et l'abaissement ont trois choses en commun. Premièrement, quand l'élévation et l'abaissement arrivent, ça touche notre ego. Ça touche notre estime de soi. Ça touche la valeur que nous nous donnons et la valeur que les gens nous donnent. Quand l'élévation arrive, nous sommes valorisés. Et à nos propres yeux, mais aussi aux yeux des autres. Quand aussi l'abaissement vient, c'est la même chose. Deuxième chose que ces deux réalités ont en commun, quand Dieu programme et l'abaissement et l'élévation, il donne toujours un cachet public. Dieu n'élève jamais en coulisses. Et Dieu n'abaisse jamais en coulisses. Plus vos fautes sont graves, plus il va vous abaisser en mondovision. Avec une large publicité. Mais troisième chose que ces deux ont en commun, c'est l'aspect pédagogique. Quand Dieu élève, il veut enseigner. Il enseigne celui qui l'élève, mais il enseigne aussi d'autres. Qui peuvent dire, donc Dieu peut faire ça. Les mêmes causes produisant les mêmes effets. Si je vis de la même manière, ce qu'il a fait avec lui peut le faire aussi avec moi. Mais quand il abaisse, il est fait aussi de la même manière. Seigneur, donne-nous des gens qui lisent les livres d'histoire, qui voient comment Dieu a traité certaines personnes. Il y a des gens qui vivent comme s'ils sont amnésiques, comme s'il n'y a jamais eu un passé. Avant toi, il y a eu de grands. Avant toi, il y a eu de forts. Avant toi, il y a eu des intouchables. Avant toi, il y a eu des gens qui pensaient qu'après eux, il n'y a rien du tout. En 2006, je suis allé pour la première fois au Maroc. Dès que j'ai atterri, j'ai dit aux amis, je n'aimerais pas que vous m'ameniez à l'hôtel là où je vais habiter. Amenez-moi là où il y a les tombeaux du président que j'ai connu de toute ma vie. Je suis arrivé dans ces petits cimetières. J'ai vu ces petits tombeaux. J'ai vu cet endroit quelconque où repose l'homme pour qui on chantait Djalelo. Et je me suis dit, le plus fort, ce n'est que Dieu. Et quand je suis arrivé à l'endroit où j'habitais, les amis m'ont donné une cassette de son service d'enterrement quelconque. Je m'imagine même dans ces cauchemars les plus forts, avec ces majuscules, les maréchaux ne s'imaginaient jamais qu'on l'enterrerait comme ça. Une dizaine de personnes, là tout autour. Seigneur, aide-nous à apprendre. Seul Dieu est fort. Seul Dieu est capable. Les deux premiers textes nous parlent d'abaissement. Abaisser veut dire cinq choses. Premièrement, abaisser veut dire diminuer la valeur de quelqu'un ou de quelque chose. Et Dieu, quelquefois, sait le faire. Akakolio, Primangondo, Abimisio Wenzabitula. C'est le même Thompson que l'on vendait à 3000 francs. Mais parce que c'est 18 heures, Tobukimbongo. 500 francs, 500 francs. Il diminue la valeur. Deuxièmement, abaisser veut dire faire descendre quelqu'un ou le diriger vers le bas. Prendre quelqu'un d'en haut et le faire descendre. Troisièmement, abaisser veut dire diminuer la hauteur de quelqu'un ou de quelque chose. Donc, diminuer sa visibilité. Troisièmement, abaisser veut dire réduire la valeur de quelqu'un ou de quelque chose, soit de manière momentanée ou de manière définitive. Cinquièmement, abaisser veut dire rendre vil et indigne d'estime. Rendre vil et indigne d'estime, c'est-à-dire moins important, d'abord à nos propres yeux et aux yeux des autres. Quand Dieu vous abaisse, vous-même vous le savez. Vous commencez à vous regarder, « Ongaïte, ongaïte, yo papa !» J'ai rencontré un homme à la gare du Midi en Belgique. Il dit, des fois, quand je monte les bus, je me demande si c'est moi ou si ce n'est pas moi. J'ai dit, papa, c'est vraiment toi. Mais moi, je te le rappelle parce que je te connais. Je te vois à la télé autre fois. Papa, il a vraiment yo. Il roulait carrosse. Membre du comité central à l'époque. Qui pouvait s'approcher de lui? Et lui-même, en me parlant, il me disait, jeune homme, vous n'avez aucune idée, le pouvoir, c'est succulent. Il dit, quand tu sors de la maison comme ça, des gardes du corps qui regardent des ennemis invisibles qu'un seul voit. Et il dit, ça vous fait du bien, vous-même, commencez. Il me disait, j'ai fait 15 ans, je ne tenais plus les portières des véhicules. Et puis, je les ai tenues. Et puis, il n'y a plus de véhicules maintenant. Ces deux premiers textes, bien que parlant d'abaissement, cachent deux raisons différentes derrière le même phénomène. Mais ce que ces deux textes ont aussi en commun, c'est que chaque fois, avant que le phénomène d'abaissement n'arrive, Dieu avertit avant. Et ça, c'est le côté bon de notre Dieu. Il ne donne jamais la sanction sans avertir. Et je le crois pour quelqu'un de Philadelphie ce matin, Dieu me fait tenir ici pour avertir. L'abaissement peut arriver, mais l'abaissement aussi peut être évité. C'est pourquoi je me tiens ici pour te parler. Si tu n'écoutes pas, dans quelques mois, quand tu seras au plus profond du trou, tu te rappelleras de ces prédicateurs au teint très clair et qui avaient beaucoup de cheveux avec des mèches qui tombaient. Et tu diras, qu'est-ce qu'il avait raison, cet homme, à la chevelure des dames. Soit dit en passant, une fois, ma dernière fille m'a demandé, est-ce que papa, toi, dans ta vie, tu as déjà eu des cheveux? Je lui dis, qu'est-ce que tu pensais? Est-ce que je suis né comme ça? Je connais une érosion difficile à arrêter. Ah, lorsque nous avions encore des cheveux. Lorsque nous faisions bougie devant et arrière. Aujourd'hui, le peigne est un instrument sans utilité chez moi. Je peux ou ne pas l'avoir. Dans Daniel 4, versets 10 à 17, Dieu parle à un homme élevé en responsabilité et en dignité. Un homme à qui Dieu a tout donné. Plein pouvoir, des capacités à faire et à accomplir des choses, des aptitudes que Dieu a invitées dans sa vie. Mais voilà à cause des choses que Dieu a appelées dans la vie de cet homme. Une maladie qui aime souvent s'inviter dans notre vie a envahi son cœur, l'orgueil. Une maladie subtile. Quand elle entre, elle ne fait pas de bruit. Il arrive des fois, on l'a déjà, et on a même les symptômes les plus élevés. Mais les autres vous disent, et vous avez difficile à reconnaître que vous en êtes malade. Donnons-nous des gens sincères qui, tout autour de nous, peuvent nous dire attention. Donnons-nous une femme qui peut nous arrêter. Donne-nous des amis sincères qui peuvent nous arrêter. Et loin de nous des flatteurs qui ne savent pas nous parler, qui nous vantent même quand cela ne vaut pas la peine. Yo, l'équibango. Yo, ça, Maradona. Il est devenu orgueilleux. Un sentiment exagéré de la valeur personnelle s'est invité dans son cœur. Un sentiment élevé de fierté, de dignité et d'honneur personnel se fait locataire dans son cœur. Vous savez comment Dieu gère l'orgueil? Jacques 4, 6 dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Une autre version dit, Dieu s'oppose aux orgueilleux. Dans Lévitique 26, au verset 19, Dieu dit à son peuple, « Je briserai l'orgueil de votre force. » Chaque fois que Dieu voit l'orgueil s'élever, il devient adversaire. Si vous voulez attirer l'adversité, de Dieu dans votre vie, j'aimerais vous donner un secret. Devenez orgueilleux. Et là où il y a l'orgueil, il y a trois sentiments connexes qui chaque fois s'invitent. Premièrement, la suffisance. C'est-à-dire, on se croit et l'on se voit important. On a une insolente présomption qui se voit dans les manières. Suffisance. Certains ne disent rien par la seule manière de vous regarder. On dirait que eux, ce sont des hommes, vous, vous êtes des sous-hommes. Suffisance. Mais au-delà de la suffisance, il y a l'arrogance. L'arrogance, c'est la suffisance, mais qui se fait voir en parole et en attitude. Arrogance. Et surtout en parole. Je parlais avec un frère qui sert le Seigneur avec nous. Il se retrouve à un endroit. Il a entendu parler d'un homme qui est en train de payer ses travailleurs. Et il leur a donné comme un prime, une prime, un bonus. Et quand l'un des travailleurs a touché, il a dit, Nzamba Pambola, il dit, t'es comme un là. Binon de besoin de Pambola. Binon. Ah! J'ai connu un homme là où j'ai grandi, colonel. Il a travaillé avec le feu maréchal, il occupait des postes élevés. Les 20, quand il payait ces gens, il avait un immeuble et lui, il était au troisième. Il est payé en jetant l'argent. Kingotolo, Kabatumbi. Arrogance. Trop important à ses yeux. Une jeune fille disait un jour, moi je suis un embouteillage de la beauté. Tout est parfait en moi. Que des personnes narcissiques quand elles se regardent. Attends, Rosambasso. Autant vous l'en étiez. Pour savoir que Dieu est Dieu seul. J'ai connu une jeune femme qui disait tout est parfait en moi. Elle disait même la partie qui me valorise le plus, c'est ma poitrine. Je l'ai vue en Occident. Elle a attrapé un cancer des seins. Et on a été obligé d'amputer un sein. Et vous savez, il y a des choses qui comptent dans le corps d'une femme. Et quand on a amputé, j'ai vu comment elle a commencé à fondre. Cesse d'être arrogant. Il y a des gens qui n'avaient pas et subitement ils ont échangé. Nous tous nous devenons des sous-hommes. Moi, salaire, on a 1000 dollars. Moi, affaire, on a moukio, salaire, pèse 10 000. Même la démarche change. Homme de Dieu, tu as prié pour quelqu'un qui était enrhumé, rhumé, katani. Même à l'église, ça change. Faut que mon arrière, on a mon arangaï. Funga kinyoé. Arrogance, démonstration extérieure en parole ou en attitude de ce que nous estimons être notre importance. Troisième chose qui s'invite là où il y a l'orgueil, c'est le mépris. Mépris des autres et quelquefois même mépris de Dieu. Quand tu étais à Louébo, quand tu grandissais en Gandajika, quand tu allais à la chasse des rats, et quand tu en attrapais six, c'était ton repas fantastique. Cette femme était une femme. Et puis tu as ramassé une boule de diamants que vous avez vendue à 1 million, t'as donné 500 000. Et tu viens à Kinshasa, tu commences à l'appeler Kakaji. Kakaji. Kamutoyo. Les hommes comme moi, les femmes comme ça, ne peuvent pas aller ensemble. Attends, Nzamba Kozon Sayo ça. Mépris. Un ami me relate, un jour il était à Lupin. Son fils qui est né aux États-Unis, qui a grandi là, un jour je lui ai posé une question. Papa, la pauvreté c'est quoi? Et papa l'a emmené vers les balcons, il lui a montré les quartiers périphériques en face. Il dit, mon fils, c'est ça la pauvreté. Quelqu'un a dit cette belle phrase. Si tu prends l'ascenseur et que tu montes, respecte ceux qui sont restés en bas. Parce qu'il est possible que l'ascenseur... Et vous savez, l'avantage, c'est que ceux qui sont en bas, ils n'ont pas de problème. Ils sont habitués à cet endroit. Mais c'est vous qui montez. La descente est infernale. Mais ce mépris va non seulement être un mépris des hommes, les combles quand ça devient aussi un mépris de Dieu. Si c'est ça ta théorie, Dieu te ramènera mon beau là et tu prieras bien mieux que nous. On dirait les cultes commencent à 7h30. 5h, tu es déjà là. Dieu est un stratège. Si tu estimes que ce sont les pauvres qui prient, et s'il veut te faire prier, il te rendra pauvre avec P majuscule. L'élévation, la gloire, la renommée, la richesse sont toujours des vrais tests du caractère. Il révèle ce que nous sommes réellement et même des fois ce que nous ignorons. Il arrive des fois nous ne nous connaissons pas véritablement et même les gens ne nous connaissent pas parce que nous n'avons pas touché à certaines choses. Il y a des infidèles qui ne sont pas infidèles parce que l'infidélité manque de moyens. Simplement quand les moyens viennent, l'infidélité qui était cachée ressort. Il y a des orgueilleux qui manquent de moyens pour exprimer cet orgueil. Azouakaga. Vous allez penser qu'il est devenu orgueilleux parce qu'il a eu. Non, il était. Mais l'orgueil manquait pour s'exprimer. Vrai test du caractère. Mais j'aime ce que l'apôtre Paul dit. Moi, je sais vivre dans l'abondance, mais je sais vivre aussi dans la disette. Je sais avoir faim, mais je sais aussi être rassasié. Il y a des gens qui ne savent que vivre dans la disette, qui ne savent que avoir faim, mais qui ne savent pas vivre dans l'abondance. À peine on leur donne, voyez comment ils changent. Certains dans le monde parlent de l'ivresse du lait. À langue milk. Dans 2 Chroniques, chapitre 26, versets 15 à 16, la Bible nous parle du changement brusque qui arrive dans la vie d'un homme qui avait bien commencé, Ozias il s'appelait. Écoutez ce que la Bible dit. Sa renommée s'étendit au loin, car il fut merveilleusement soutenu par l'Éternel jusqu'à ce qu'il devint puissant. D'autres versions disent il devient influent. C'est-à-dire il a la capacité de faire arriver des choses. Combien l'influence, la capacité à faire arriver les choses peut des fois nous détruire. Avoir pouvoir de vie ou de mort sur les gens. Mais lorsqu'il devint puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. La version des semeurs dit son cœur se gonfla d'orgueil, ce qui entama sa perte. Et dans les récits que nous avons lus, Dieu voit l'orgueil qui s'invite dans le cœur d'un homme. Et Dieu envoie un avertissement à cet homme. Seigneur, avertis-moi quand je vais dérailler. Seigneur, parle-moi. N'est-il pas dit, tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Utilise n'importe quel moyen. Parle-moi. Et quand Dieu se met à parler à cet homme dans un songe,
Il dort la nuit, il voit quelque chose, Dieu l'aime tellement. Et Dieu lui donne un songe significatif que nous avons lu dans Daniel 4, 10 à 12, où nous voyons trois choses qui se passent. Premièrement, le verset 10 nous en parle. Quelque chose qui n'existait pas existe subitement sans avoir demandé. Il dit, voici les visions de mon esprit pendant que j'étais sur ma couche. J'ai regardé et voici, il y avait au milieu de la terre un arbre d'une grande hauteur. Cet arbre n'a pas demandé d'exister. Quelqu'un a voulu que cet arbre existe. Deuxièmement, cette chose trouve de l'accroissement. Non pas un accroissement qu'il crée, il reçoit la sève, il reçoit des rudiments, il reçoit de l'apport extérieur qui fait qu'il puisse s'accroître. Écoutez ce que le verset 11 dit. Cet arbre était devenu grand et fort. Cette grandeur et cette force, ce n'est pas lui qui crée. Sa cime s'est levée aux cieux et on les voyait des extrémités de la terre. Il a une taille, il a un aspect extérieur, il a une visibilité, mais voulu par Dieu, donné par Dieu. Et troisième chose que ce texte nous montre, c'est la dépendance des autres vis-à-vis de lui à cause de ce que Dieu a fait. Il dit, il portait de la nourriture pour tous. Les bêtes des champs s'abritaient sous son arbre, sous son ombre plutôt. Les oiseaux du ciel faisaient leur demeure parmi ses branches. Mais écoutez surtout la fin. Tout être vivant tirait de lui sa nourriture. C'est Dieu qui l'a voulu. Dieu fait de lui un centre. Les autres dépendent de lui. Dieu place dans cette chose des choses qui font qu'il est incontournable. C'est Dieu qui le veut. La version des semeurs dit, tous les êtres vivants se nourrissaient de ses produits, de ce qui sortait de lui. Puis dans Daniel 4, versets 14 à 15, un ordre fort est donné. Abattez l'arbre, coupez ses branches, secouez les feuillages, dispersez les fruits. Et les bêtes qui étaient au-dessus, les oiseaux du milieu de ses branches, éloignez-les. Éloignez ce qui lui donne ce sentiment d'importance. Qu'il ne soit plus le centre. Et Dieu va plus loin et dit, liez-les avec des chaînes de fer et d'airain parmi l'herbe et des champs, qu'il soit trempé de la rosée du ciel, qu'il ait comme les bêtes l'herbe de la terre pour partage. Pourquoi une telle punition? Pourquoi un tel changement brusque et sans transition, et même sans étape intermédiaire? Daniel 4, verset 25, la partie B, nous donne l'explication. Écoutez ce qu'il dit. Jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur les règnes des hommes, et qu'il les donne à qui lui plaît. C'est pourquoi je veux que tu passes par là. C'est pourquoi je veux que tu connaisses cela. Et le verset 33 nous parle de l'instant où ces choses s'accomplissent. Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes. Il mangea de l'herbe comme les bœufs. Son corps fut trempé de la rosée du ciel. Écoutez la suite. Jusqu'à ce que ses cheveux crussent comme les plumes des aigles, et ses ongles comme ceux des oiseaux. Seuls ceux qui l'ont connu voient les traits. On est Nebuchadnezzar. Ceux qui n'étaient pas yéte. Manzak n'étaient pas yéte. Et laissez-moi vous dire, c'est Dieu qui le veut. C'est Dieu qui amène cet homme grand, cet homme élevé, jusqu'à ce niveau. Quand Dieu abaisse, il accomplit plusieurs choses, dont quatre principalement. Quand il abaisse, premièrement, il vous ôte ce qui faisait votre fierté. Il ôte ce qui faisait votre arrogance. Ce qui vous amenait à mépriser les autres. C'est lui-même qui enlève cela. Deuxièmement, il ne le fait pas de manière cachée. Il le fait de manière visible. Et troisièmement, il fait de vous le contraire de ce que vous étiez. Et même de ce que vous voulez être. Mais en même temps, il vous conserve les souvenirs de ce que vous étiez. Il garde ses souvenirs frais. Votre joie, c'est dans les albums. Votre joie, c'est quand vous sortez, vous trouvez ce véhicule assis sur des pierres. Vous dites, ah, Impalo, tant tu as un ango. Tant on a qu'une chasse, on a un ango. La nostalgie. Tu commences à regarder ces photos où tu étais reçu en audience. De temps en temps, avec tes babouches compliquées, tu te consoles en regardant. Ah! Bana. Brundi Mangai Tengana ba New York Nakoma Baba. Jimmy Carter Bouye. Mais pour traverser même à Brazza, c'est un problème désormais. Mais le souvenir est resté là. Mais quelquefois, Dieu va plus loin. Il fait la quatrième chose. Alors qu'il vous abaisse, soit il garde les autres très haut, ou soit qu'il élève d'autres. Et il les fait devant vous. Si l'abaissement de Daniel 4 est dû à l'orgueil, l'abaissement d'Ésaïe 22 est dû à deux choses. D'un côté, l'orgueil, mais aussi la mauvaise gestion. Laissez-moi vous dire, chaque élévation qui a Dieu comme auteur et base a toujours un but. Dieu n'élève jamais pour rien. Quand Dieu vous élève, il est fait pour un but. Et plaise à Dieu que nous puissions, un, connaître ses buts et deuxièmement, les poursuivre. Car quand nous n'atteignons pas les buts pour lesquels Dieu nous a élevés, il nous enlève. Et il s'est placé quelqu'un d'autre. Dans 1 Corinthiens chapitre 4, versets 1 à 2, l'apôtre dit, nous sommes des dispensateurs des grâces de Dieu. D'autres versions disent des gérants. Et ce que Dieu demande des dispensateurs, c'est qu'ils soient trouvés fidèles. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'ils fassent avec ce qui leur a été donné, ce pourquoi cela leur a été donné. Qu'est-ce que tu fais avec cette position que Dieu t'a donnée? Qu'est-ce que tu fais avec ces moyens que Dieu t'a donnés? Mauvaise gestion. Dans Esther chapitre 4, verset 14, Mardoché avec des mots durs parle, secoue et rappelle à l'ordre cette jeune fille qui n'était rien et que subitement Dieu a amené à être tout. Il lui dit, qui sait si ce n'est pour des temps comme ceci que tu es parvenu à la royauté? Esther, Dieu ne t'a pas amené là pour que tu te réjouisses. Dieu ne t'a pas amené là simplement pour toi. Il t'a amené là pour un but, pour une raison. Reconnais cette raison et fais ce pourquoi il t'a amené. Seigneur, pourquoi tu as placé Roland? Hier je n'étais pas, et bizarrement aujourd'hui je suis. Aide-moi à ne pas passer à côté. Aide-moi à atteindre mon objectif. Comme pour le roi Nebuchadnezzar, deux choses se passent aussi avec cet homme d'Ésaïe 22. Il s'appelait Shebna. C'était un étranger. Mais qu'un jour le roi est venu chercher, il semble que c'est quelqu'un qui était aux portes, mais qui avait un vécu. En les questionnant, on a trouvé qu'il avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intelligence dans la gestion. On est allé le chercher, Shebna. Et le roi décide qu'il fait de lui son intendant, l'équivalent du premier ministre. Un peu comme Joseph en Égypte. Mais voilà, Shebna rentre dans la luxure, dans toutes sortes de dépenses. J'ai entendu parler d'un homme qui autrefois, il avait autant de Mercedes adaptées aux couleurs des costumes. Costume de couleur grise, Mercedes grise. Costume noir, Mercedes noir. Costume jaune, est-ce que Dieu t'a donné ça pour cela? Qu'il y a des gens qui ne savent pas pourquoi Dieu leur donne des choses. Dieu donne à Samson l'onction. Samson commence à utiliser l'onction pour faire des devinettes aux gens et organiser des jeux concours. Et les prix pour les jeux concours, il utilise la force de Dieu. Il va tuer des gens et il prend les habits. Est-ce que Dieu t'a donné cela pour ça? J'ai beaucoup aimé, un jour j'ai suivi Bénine qui confessait, qui pleurait presque. Il dit, Dieu m'avait donné des dons spirituels, mais je n'ai pas su les gérer. Il dit, autrefois, je jouais avec l'onction. Quand j'ai prié pour quelqu'un, il tombe, j'allais relever, les reçois encore. C'est pas encore aller reçois. Ça devenait un jeu. L'onction n'est pas pour l'amusement. L'onction est pour un but. Et Shebna ne sait pas gérer. Shebna s'achète un tombeau de grand prix. Shebna s'achète des chars. Et
Et comme pour Nebuchadnezzar, Jéhovah avertit. Il avertit d'avance. Et il utilise des termes forts. Il dit, allez dire à ses courtisans. Quand Dieu est fâché, il sait parler. Allez dire à ses courtisans. Qu'a-t-il qui se fasse toutes ces choses? Allez les lui dire. Va vers Shebna, gouverneur du palais. Il s'étale une demeure dans les rocs. Et Dieu dit, je vais faire des choses avec lui. Il avertit de ce qui va arriver. Mais deuxièmement, il utilise des mots forts. Au verset 17, il dit, voici l'Éternel te lancera d'un jet vigoureux. Non, il dit, non pas seulement je vais te lancer, mais je vais te lancer avec force. Parce que ma colère est arrivée à son comble. Il dit, je t'envelopperai comme une pelote. Il dit, l'Éternel te fera rouler. Rouler comme une balle sur une terre spacieuse. Et Dieu va au verdict final. Là, tu mourras. Là seront tes charmes magnifiques. Ô toi, l'opprobre de la maison de ton maître. Dieu dit, je te chasserai. L'Éternel t'arrachera de ta place. Dieu va plus loin. Non seulement qu'il informe Shebna de ce qui va arriver, mais il lui désigne qu'il y aura un successeur. Et il lui cite même le nom. J'aimerais nous dire, aucun homme n'est indispensable. Il y aura un successeur. Et quel successeur? Dieu cite même les noms. Eliakim. Eliakim, c'est un homme aussi négligé. Il dit, je le prendrai. Et j'aime les propos que Dieu utilise. Au verset 21, je les revêtirai de ta tunique. Je les ceindrai de ta ceinture. Je remettrai ton pouvoir entre ses mains. Je mettrai sous son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, personne ne fermera, et quand il fermera, personne n'ouvrira. Et par rapport à l'abaissement, j'aimerais dire encore un certain nombre de choses avant peut-être d'introduire certaines choses. Dieu voulant, nous continuerons plus tard. C'est que Dieu ne fait jamais arriver l'abaissement sans avertir. Et je me tiens ce matin ici pour avertir. Et deuxièmement, lorsqu'il avertit, il s'attend à un changement dans la façon d'être et de faire, un réajustement. Quelquefois, Dieu fait des menaces d'abaissement simplement pour nous réajuster. C'est-à-dire, si nous nous réajustons, il n'accomplit pas sa menace. Le but est pédagogique. Mais quand nous refusons d'écouter l'avertissement, il va jusqu'à la sanction suprême. Ézéchiel 33, verset 11, la Bible dit, ce que je désire, ce n'est pas que les méchants meurent, c'est qu'ils changent de conduite et qu'ils vivent. Même quand il parle à Shebna de la sorte, si celui-ci s'était repenti, si celui-ci s'était mis à pleurer, Dieu aurait changé. Écoutez l'histoire de Ninive. Dieu amène un message sanction. Jonas va leur dire ceci, mais la Bible dit quand ils ont porté les sacs, ils se sont abaissés dans les cendres. La colère de Dieu est passée. Je prie que quelqu'un écoute l'avertissement et qu'il change de façon de se comporter. Mais troisièmement, lorsqu'il finit par frapper, il vise à éradiquer un mal. Nous l'avons lu dans Daniel 4, verset 37. Nebuchadnezzar dira après l'abaissement et les relèvements, il dira, j'ai glorifié le roi des cieux, dont les œuvres sont vraies et les voies justes, qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Mais deuxièmement, c'est Dieu n'est pas seulement le Dieu qui abaisse, c'est aussi le Dieu qui élève. Alléluia. Élever veut dire cinq choses. Premièrement, élever veut dire prendre d'un niveau bas et amener vers les hauts. Deuxièmement, rendre important en augmentant la valeur d'un homme à ses propres yeux et aux yeux d'autres personnes. Troisièmement, élever veut dire rendre à un degré supérieur les niveaux, la valeur ou la qualité de quelque chose ou de quelqu'un. C'est la même personne, mais il y a des apports extérieurs qui font que cette personne a une autre valeur. Troisièmement, élever veut dire favoriser le développement, l'expansion de quelqu'un par des choses que l'on fait pour lui et par lui. Cinquièmement, élever veut dire placer un niveau de visibilité indéniable. C'est Dieu qui place
Et par rapport à l'élévation, il y a des choses importantes qu'il me faut mentionner. La première, c'est que Dieu aime et veut l'élévation de ses enfants. Il en fait son projet, les sujets de sa réflexion. Il programme cela, il planifie cela. Il réfléchit sur les voies et moyens pour que ses enfants ne soient plus en bas, mais qu'ils puissent aller vers le haut. Dans Jérémie 29, au verset 11, « Car moi, je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. » Deuxièmement, par rapport à l'élévation, quelquefois Dieu nous en parle avant que cela n'arrive. Il nous avertit. Il dit à Josué, nous l'avons lu, dans Josué chapitre 3, verset 7, il dit, « Je commencerai. » Ce que j'aime, Dieu dit, « Quand tu verras cela, ce n'est qu'un processus. » Ça sera les premiers escaliers. Je commencerai. Il dit cela avant que cela n'arrive. Dans Genèse chapitre 12, au verset 12, il dit à Abraham, alors que rien n'est arrivé, il dit, « Je rendrai ton nom grand. Je te rendrai important. Oh, je le crois du fond de mon cœur. » Il y a des gens qui s'attendent à l'élévation. Parce que Dieu leur a dit. J'aimerais vous dire, les promesses de Dieu sont quelquefois folies. Dieu peut vous parler de postérités nombreuses alors que vous n'arrivez même pas à avoir un enfant. Si les choses que Dieu vous dit, l'homme peut les faire, alors il n'est pas Dieu. Dieu aime vous dire des choses impossibles qui vous amènent à dire comme Marie, comment cela se fera-t-il? Il aime parler avant. Troisième chose, l'élévation, la véritable, a une source, et cette source c'est Jéhovah. Dans Psaume 75 ou 75, versets 7 et 8, la Bible dit, car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni même du désert que vient l'élévation, mais c'est Dieu qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. Alléluia. C'est Dieu qui élève. Et la véritable élévation qui a Dieu comme auteur, il la protège. Quand l'homme s'auto-élève, il va rapidement tomber parce que l'homme ne peut pas supporter. Mais quand ce sont les hommes aussi qui font votre promotion, les jours ils sont fatigués de vous, ils vous lâchent. Et vous vous retrouvez par terre. Quatrième chose, c'est que l'élévation qui a Dieu comme source s'accompagne d'un ingrédient principal et central appelé faveur ou grâce. Là où il y a l'élévation de Dieu, soit en projet, soit déjà en devenir, il y a toujours un ingrédient, la faveur de Dieu. Lorsqu'elle est là, on le sent, c'est comme un parfum. On sait qu'elle est là. Il produit des effets. La faveur, on ne sait pas comment elle fonctionne, mais on sait toujours voir les conséquences de sa présence. La faveur qui conduit à l'élévation accomplit plusieurs choses. Premièrement, elle fait pour vous des choses incompréhensibles. Incompréhensible et pour vous et pour les autres. C'est-à-dire, il arrive des fois que les gens pensent que vous avez l'explication de ce qui vous arrive. Mais vous-même, vous n'avez pas l'explication. Vous constatez avec eux. Comment ceci t'est arrivé? Je ne sais pas. Mais je compte ça simplement que c'est arrivé. Dans Ruth chapitre 2, au verset 5, la Bible nous parle de la manière dont la grâce est révélée dans la vie de cette jeune femme. Elle vient de quitter Moab et la voilà qui se retrouve à Bethléem. Et cet homme qui venait une fois l'année visiter son champ arrive au bon moment. Et bizarre, la Bible dit, quand il était dans ses champs, subitement il remarque cette jeune femme. Il y avait plusieurs moissonneuses. Il dit, qui est cette jeune fille-là? J'aimerais vous dire, le Dieu qui annonce l'élévation planifie cela. Jeune fille, vous n'avez pas besoin de faire des artifices. J'ai entendu une jeune fille dire un jour, « Nous avons une chorale. » Nous avons une chorale. Nous avons une chorale. Au fond, dit quoi? Nathan Royem, bah faut là les saramisu. On a ma frère Batala. Oh, moi c'est ensemble. Samedi, faut na kalinga souki. Bomeli bango orange mon quoi. On se emballe lui à mon checkaboy. Yo me rose la marketing na yo. Mais si la faveur de Dieu est sur vous, même dans la masse, on vous trouvera. Hé, hey, maman, pose à Liban à Philadelphie. Il faut que tu services d'accueil. N'attends pas que nous offrons de bouc qui nous autres. Quelqu'un peut être dans la masse et Dieu permet qu'on puisse la voir. Ruth était simplement en train de glaner Mamabi Pepula. Sans beauté ni éclat. Dis à ton voisin faveur. Et Boaz dit, qui est cette jeune fille-là? Esther chapitre 2, verset 9, verset 15 et puis verset 20, 24 nous montre combien la faveur de Dieu s'est manifestée dans la vie de cette jeune femme appelée Esther. Une jeune femme a été destituée. Vatsi n'est plus la reine. Et la Bible nous montre qu'on vient arrêter les gens de force. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu est un metteur en scène. S'il veut que toi tu sois placé, il sait disqualifier les gens. Vatsi se comporte mal. Mais dans le plan de Dieu, Dieu regarde dans sa montre et dit, Tango ya Esther et Bellamy. Et la manière dont on amène Esther vers l'élévation, on l'arrête. L'abbé dit, on l'arracha. Quand on est en train de la prendre, on a kende tenon. Yo kende. Oui, parce qu'on a un bazo memayo. Et dès qu'elle arrive dans le palais royal, la Bible dit, le maestro, l'homme important dans le palais royal, il s'appelait Egaï, l'homme qui connaissait le goût du roi. Subitement, lorsque plusieurs jeunes femmes arrivent, Egaï appelle cette jeune fille et dit, toi viens. Voilà les trousseaux de maquillage. T'as la roue à quoi? Donc, Mukolo, Kende, Kuna, Mama, Kola, ta rouge, te. Sola, ta rouge, ma démon, a yomoko. Et ce que j'aime dans ces récits, c'est que c'était un concours. Un concours normal, on doit laisser tous les concurrents passer et puis trancher. Elle passait, elle passait, elle passait. Quand Esther arrive, le roi dit Machessili. Quand la faveur de Dieu est sur vous, dis à ton voisin, tu as besoin de la faveur. Elle va t'élever. Elle t'amènera là où les autres ne sont pas arrivés. Il arrive des fois, les gens veulent nous imiter. Tu ne peux pas nous imiter parce que ce que nous sommes devenus, c'est la faveur de Dieu. Si nous ne comprenons pas la faveur de Dieu, tu comme biloba loba. Azo l'aksani, n'est l'autre côté. Mais oh, il y a un salabi, c'est trop salam, meka. Cinquième chose, tout ce que Dieu a programmé en termes d'élévation, il prépare cela. Il fait passer cela par un processus. Dieu n'élève jamais des gens qu'il n'a pas préparés. Quand Dieu pense à l'élévation, il prépare. Et des fois, une préparation qui ne dit pas son nom. Il vous place à l'endroit qu'il faut. J'aime ce que Genèse 39, verset 1 dit. Quand on arrête Joseph, on les vend aux Madianites. J'aime. Quand les Madianites arrivent, ils auraient pu les vendre à M. Kingotolo. La Bible dit, il est vendu à Potiphar, chef de la maison des gardes. Dieu dit, j'aimerais l'envoyer dans un endroit où il apprendra les us et coutumes. Comme il a appelé à la grandeur, il doit vivre là où il y a la grandeur. Pour qu'il sache comment on se tient, comment on parle, comment on s'habille. Dis à ton voisin, Dieu fait quelque chose dans ma vie. Je me tiens ce matin comme un prophète pour dire à quelqu'un, il te prépare. Il permet que tu sois la joie de cet homme, il te prépare. Il a permis que tu sois conseiller, il te prépare. Il a permis que tu sois je ne sais qui, il te prépare. Laissez-moi vous dire, Dieu ne place jamais de David sur le trône avant de les avoir placés en bas du trône jouant la harpe pour quelqu'un. Tu peux jouer la harpe pour quelqu'un en disant, là où il est assis, c'est ma place. Mais le temps m'amènera là. J'aimerais dire à quelqu'un, le temps travaille pour toi. J'entends le bruit qui annonce l'élévation de quelqu'un. J'entends le bruit qui annonce l'élévation de quelqu'un. Certaines difficultés par lesquelles tu passes sont une préparation. Dieu me dit de dire à quelqu'un, le temps d'être adjoint est fini. Le temps d'être second est fini. Le temps d'être porteur d'âme comme David est fini. C'est le temps maintenant de posséder. Car il a décidé que cela arrive. Mais je termine avec la dernière chose. Chaque fois quand Dieu prépare l'élévation, il s'attend à un style de vie adapté. J'aimerais vous dire, attendre l'élévation plus péché égale les larmes. Attendre l'élévation plus immoralité égale les larmes. Dans Genèse 39, versets 9 à 10, il savait qu'il allait être élevé. Il avait été averti par deux songes. Il y a plusieurs que Dieu a avertis. Il avait vu des gerbes qui s'étaient et d'autres gerbes qui se courbaient. Vous savez, Dieu parle des fois de manière symbolique, mais si vous êtes attaché à lui, vous savez ce qu'il veut dire. Il n'a pas demandé cela, il a vu la lune, le soleil, ainsi que les étoiles venir s'accroupir devant lui. Dieu des fois marque dans votre cœur des choses qui vont venir dans 5 ans, dans 10 ans. Il vous donne comme une feuille de route, il dit voilà où vous allez. Je ne sais pas ce qu'il en est de vous, moi je sais où je vais. Je ne sais pas quand cela va arriver totalement, mais je sais que cela va arriver. Je le sais, je le sais, je le sais. J'aime souvent le dire pour ceux qui sont souvent avec moi. Il y a des moments où Dieu vous rend détenteur d'un savoir. Subitement vous savez. Vous ne savez pas comment vous savez, mais tout ce que vous savez, c'est que vous savez. Je sais que je deviendrai ça. Je sais que j'arriverai là. Comment tu le sais, je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est que j'ai. Et Dieu m'a dit ce matin, Philadelphie, il y a plusieurs qui savent. Ils le savent. Il y a des endroits, quand vous passez, vous dites, cet endroit, je reviendrai. Il y a des endroits, quand vous passez, vous dites, cet endroit, je reviendrai. Il y a des fois, tu amènes les signataires vers le PDG. Quand tu déposes, tu dis, dans quelques temps, ça sera ma table. Mais entre-temps, je vais les servir. Il y a quelqu'un ici, là où tu es assis. Quand tu entres à la primature, tu vois c'est ces photos sur le mur. Tu dis, dans quelques années, il y aura aussi ma photo. Je la vois quelque part là. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment. Mais j'aimerais te dire, si tu as de telles promesses, crains Dieu. L'un des signes qui montre que votre élévation arrive sont les tentations très fortes. La femme de Potiphar s'est levée et dit, va avec moi. Comment ferai-je un aussi grand mal? L'une des stratégies du diable, c'est un avorteur des destins. Quand le diable sent que votre temps arrive, il vous présente des choses. Si vous voyez des tentations fortes comme jamais avant, désormais, quand tu vois ta femme passer, tu la vois comme un morceau de bois. Tout ce qu'elle dit t'énerve. Mais c'est quelqu'un d'autre, fais attention. Sache que quelque chose de grand arrive. Dieu m'a dit de dire à un homme, reviens à la fidélité vis-à-vis de lui et vis-à-vis de ta femme, et tu vas hâter l'accomplissement de ces choses. Dieu m'a dit de dire à un homme, les secrets pour te garder là où tu es, malgré l'adversité, crains Dieu. Trouve le temps de venir à l'église. Tu ne trouveras pas toujours le temps. Crée ce temps. Car tu as plus que jamais besoin d'être dans la présence de Dieu. Dieu m'a dit de dire à un homme, il est en train de t'élever, personne ne t'enlèvera de ses sièges. Car c'est lui qui t'a placé. Je t'ai vu, j'ai vu quand on voulait te mettre sur ces sièges, Dieu a placé de la colle. Il m'a dit, tu viendras t'asseoir. Quand j'ai prié, il a utilisé un terme que l'ingalaphone et il me dit, Okotinga Mawana. Dans 1 Corinthiens chapitre 4, plutôt 2 Corinthiens, pardonnez-moi, 2 Corinthiens chapitre 7 au verset 1, l'apôtre dit, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant votre sanctification dans la crainte de Dieu. Ayant donc de telles promesses d'élévation, craignez Dieu. Dieu me dit de dire à un homme, la force de ton élévation sera dans la transparence que tu auras vis-à-vis de ta femme. Cesse d'être opaque. Cesse d'avoir un double langage. Sois transparent et tu verras ce que Dieu peut faire. J'ai parlé et je vous remercie. Lèvons-nous tous. Nabenga kayo yaya. Yaya, yaya baleke bele.
Baleke bele. Nabenga
kayo. kayo papa.
Vinga kayo papa. Papa ya banebele. Yosali.
Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yema Yahweh.
Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer.